Chers frères et sœurs, vous êtes venus nombreux ce matin de tous les horizons de notre diocèse pour cette journée diocésaine de notre pèlerinage que nous avons commencé dès vendredi avec nos frères et sœurs malades et handicapés, les hospitaliers nombreux de notre belle HBB, accru comme chaque année de lycéens, 180 cette année, des séminaristes, la paix et les sourires d'une école du service pour les ados, et qui nous rassemble déjà depuis 3 jours autour de ce thème que nous essayons d'approfondir encore aujourd'hui, qui est celui des sanctuaires de Lourdes pour cette année 2023. Tiré du message que la Vierge Marie confia à Sainte Bernadette, à la 13e apparition, après l'avoir préparé à entendre ce message et cette mission, en particulier en l'invitant à prier pour la conversion des pécheurs. Et cette mission, c'est « aller dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle ». Et puis rentrer dans ce thème, nous avons entendu le vendredi, lors de la belle célébration d'ouverture, une première parole qui est déterminante, qui est fondatrice, et qui l'est pour nous tous aujourd'hui. C'était la profession de foi de Pierre. Lorsque Jésus pose cette question fondamentale sur son identité, de manière très personnelle à ses apôtres, à ses disciples, qui doit nous rejoindre encore et toujours aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, pour toi, pour moi, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Et dans l'illumination de la foi, qui ne peut venir en effet que d'un don de Dieu, car ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais « Mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus à Simon, il dit, tu es le Christ. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie tel qu'il est annoncé par les prophètes, comme celui que Dieu envoie dans le monde pour rétablir l'alliance avec son peuple qui a été brisé par tant de ruptures d'alliance qui s'appelle le péché. Qui est venu dans le monde pour remettre Dieu à la première place. Car sans l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, nous ne pouvons pas aimer notre prochain en plénitude, sans limite, comme Jésus nous l'indique dans l'évangile que nous venons d'entendre sur le pardon de tout son cœur. La foi, c'est croire que Jésus est vraiment le Christ. C'est le mettre à la première place et cela nous fait comprendre la mission que la Vierge Marie confie à Sainte Bernadette en lui disant « Allez dire aux prêtres qu'on y construise une chapelle » et pourtant il y avait l'église paroissiale à Lourdes. Mais Marie voyait tellement plus loin. Car l'église, dont cette chapelle, dans toutes nos églises, tous nos sanctuaires, sont le signe et le symbole et le lieu où les prêtres rassemblent le peuple de Dieu pour proclamer la parole de vérité et de vie, pour célébrer l'Eucharistie dans laquelle nous entrons en communion intime avec le Christ mort et ressuscité, pour donner le sacrement du pardon. Vous comprenez comment trouve tout son sens cette mission donnée à Lourdes par la Vierge Marie, aujourd'hui comme hier. Nous connaissons la même réalité sociale où les mœurs sont de plus en plus libéralisées, la vie publique de plus en plus laïcisée, qui va de pair avec le déclin de la foi, l'oubli de Dieu dans la vie des hommes. Voilà pourquoi Marie veut recentrer la vie des hommes sur le Christ qui nous ramène à Dieu, qui recrée cette alliance brisée avec Dieu et, du même coup, entre nous. L'Église a été fondée sur cette profession de foi de Pierre. La foi de Pierre, à laquelle que nous faisons nôtre aujourd'hui, construit l'Église, qui est l'ensemble de ceux qui sont tournés vers Jésus. Dans la foi, regardez, nous avons tous les regards qui convergent sur cette croix monumentale qui rappelle la mort du Christ, parce que l'Église est fondée sur le Christ, cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle à travers la résurrection. C'est le ressuscité qui est l'objet de notre foi, cette pierre du tombeau qui obstruait le tombeau après la mort du Christ, qui a été déplacée, signe que le Christ est vivant et qu'il continue de construire son Église. Et nous croyons, c'est notre foi au Christ mort et ressuscité. C'est le fondement de l'Église et donc de notre unité. Car si l'Église, car si lourde pour nous, à travers ce pèlerinage, a été comme un laboratoire de la foi, Lourdes, à travers ce pèlerinage, devient aujourd'hui pour nous le laboratoire de la communion. Parce que l'une des conséquences fondamentales et essentielles de notre foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité, c'est précisément notre communion. L'Église est communion, comme nous l'avons vécu pendant tous ces jours, chers frères et sœurs, avec tant de joie. Pendant tous ces jours, malades et bien portants, jeunes et vieux, nous avons vécu une expérience de communion magnifique. Nous avons oublié nos différences, nous avons oublié nos tensions, nos différences de sensibilité, d'opinion, qui que nous soyons dans l'Église, quelles que soient nos paroisses, nos chapelles, nos générations. Nous avons vécu un temps de communion, comme dit saint Paul, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur, nous mourons pour le Seigneur. Dans la mort comme dans la vie, nous appartenons au Seigneur. C'est une manière d'exprimer ce qu'est la foi de l'Église. Nous appartenons tous ensemble au Seigneur et nous sommes son corps, capable, tenez, d'accueillir l'autre. De voir d'abord, plutôt que de le juger sans cesse, d'être toujours en procès, de prendre prétexte de nos différences pour nous diviser, de voir ce qu'il y a de positif dans l'autre et de le valoriser et de l'accueillir comme un don de Dieu. Un don pour moi et pas seulement pour celui qui l'a reçu. C'est un des éléments que saint Jean-Paul II, dans sa belle lettre au début du nouveau millénaire, indiquait pour construire une spiritualité de la communion. Ne soyons pas naïfs et soyons réalistes, chers frères et sœurs, car nous allons retourner dans nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés paroissiales, et peut-être que nous allons retrouver ces sempiternelles tensions, divisions au sein des couples, des familles, des communautés, de l'Église, du diocèse, de l'Église universelle et du monde. Ces divisions auxquelles nous achoppons sans cesse, comment est-ce que nous allons construire, chers frères et sœurs, à partir du roc de la foi de Pierre que nous faisons nôtre aujourd'hui, cette communion de l'Église à travers le pardon. Nous nous étonnons que nos communautés soient si peu attractives pour le monde d'aujourd'hui. Nous nous étonnons qu'elles soient si peu appelantes de vocation au don total de sa vie, au service du Seigneur et de ses frères dans la vie consacrée ou dans le sacerdoce. Nous nous étonnons. Vous savez ce que disaient les païens de Rome en voyant les chrétiens vivre qui étaient confrontés quant à eux à la persécution. Ils disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Et Jésus qui donnait ce commandement à ses disciples après avoir institué l'Eucharistie et leur avoir lavé les pieds, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, ce commandement nouveau que nous avons entendu dans l'acclamation de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça n'est plus seulement tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus nous a aimés plus que lui-même. Il a donné sa vie pour nous. Quand nous étions des justes et quand nous étions aimables, non, quand nous étions pécheurs, c'est-à-dire ses ennemis, la preuve que Dieu nous aime, dit saint Paul, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis. La communion n'est possible, chers frères et sœurs, que par l'expérience d'un amour qui va jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au pardon, qui est la perfection du don, qui est croire que l'autre vaut plus que ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait de mal à mon endroit. Jésus, offensé par les péchés des hommes, de manière infinie, bien plus que ces 60 millions de pièces d'argent de la parabole du débiteur impitoyable que nous venons d'entendre, n'exhale dans son cœur que de la compassion pour celui-là même qu'il a offensé. Que miséricorde, que pardon, que réconciliation. Savons-nous encore demander pardon? Et si nous ne savons pas encore demander pardon, et si nous sommes encore si tendus les uns avec les autres, et si divisés parce que nous ne ressemblons pas tous, nous n'avons pas les mêmes opinions, les mêmes sensibilités, les mêmes idées, les mêmes manières de nous habiller. C'est parce que peut-être nous ne faisons pas assez l'expérience du pardon de Dieu dans notre vie à travers ce si beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation. C'est vrai qu'ici à Lourdes, c'est tellement facile de se confesser. C'est vrai que au JMJ, dont nous ferons le retour cet après-midi, c'est tellement facile de recourir au sacrement du pardon. J'ai vu des jeunes qui passaient leur temps à aller voir les prêtres pour se confesser. Il y avait même un parc à Lisbonne avec 150 confessionnaux qui avaient été confectionnés, tout un symbole, par les détenus de la capitale du Portugal pour que les prêtres se tiennent en permanence et les jeunes venaient en permanence pour recourir au sacrement du pardon. Remettre ce sacrement au cœur de notre vie et au cœur de nos communautés chrétiennes pour devenir une Église qui soit vraiment communion et qu'à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, capable de nous réconcilier, de nous pardonner mutuellement parce que nous faisons l'expérience de la miséricorde du Seigneur, devenir attractif pour les hommes de notre temps qui meurent de ne pas arriver à pardonner, à ne pas aimer en plénitude, à ne pas se réconcilier. Quelle belle parabole qui nous touche et peut-être qui nous dénonce, qui me dénonce, moi qui vous prêche. Nous sommes si prompts à demander le pardon de Dieu, alors que notre offense peut être infinie vis-à-vis d'un Dieu d'amour qui nous l'a tellement montré en donnant sa vie pour nous sur la croix à travers son Fils crucifié et ressuscité, et qui sommes si impitoyables avec les autres qui nous ont offensés si peu gravement. Et nous répétons à l'envi dans le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous l'avons entendu dans ma première lecture, n'est-ce pas, tirée du livre de Ben Sirac le Sage, s'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? La miséricorde de Dieu est gratuite, absolument gratuite, n'est jamais conditionnée par nos démarches. Le sacrement du pardon est la preuve que Jésus est quelqu'un qui ne nous juge jamais, qui ne nous condamne jamais, qui est toujours prompt à nous pardonner, car il est lent à la colère et plein d'amour, comme nous l'avons chanté dans le refrain du psaume que nous avons médité. Mais comment, avec cohérence et sans hypocrisie, pouvons-nous demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés alors que nous sommes si impitoyables pour si peu de choses avec nos frères et nos sœurs ? Chers frères et sœurs, Je vous invite et je nous invite à remettre le pardon, le sacrement du pardon, au cœur de notre vie ecclésiale, pour que l'Église, qui est la communauté de ceux qui regardent ensemble le Christ mort et ressuscité par la foi, devienne toujours plus une Église communion. Cette année, nous vivrons une année de la foi et de l'appel. Nous approfondirons ensemble notre foi et notre communion, et nous remettrons une pédagogie pour redécouvrir dans nos communautés ce beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour les dons que tu nous fais par ton Église. Nous sommes dans l'action de grâce, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen.